Ecclésia Magazine.
Ecclésia Magazine.
Maxime Dalle.
Dans la paroisse parisienne de Saint-Nicolas-des-Champs, de nombreux fidèles se réunissent chaque semaine, tous les jeudis, pour une prière de guérison. Stérilité, surdité partielle, dépression et encore d'autres maux, le Saint-Esprit peut guérir. Alors que penser de ces soirées de prière pour guérir les malades, mais surtout des miracles d'une manière générale? Faut-il y croire? Faut-il demander à Dieu d'exaucer des miracles sans tomber justement dans le sensationnel? Nous en parlons aujourd'hui avec le père Thierry Aval, vicaire de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et un médecin, le docteur Patrick Théier, qui a été médecin à Lourdes, chargé d'authentifier les miracles. Père Thierry Aval, bonjour.
Bonsoir. Bonjour Maxime.
Alors peut-être pour débuter cette émission, nous présenter en quelques mots justement ces soirées de prière pour guérir les malades. Ça consiste à invoquer l'Esprit Saint pour guérir les maux des gens qui viennent dans la paroisse.
Voilà, donc ces soirées de prière pour les malades qui se déroulent le jeudi consistent à rassembler des gens qui viennent de France, parfois même d'ailleurs, de l'étranger, parce que cette prière commence à être connue.
Oui.
Et nous prions pour les malades, pour les gens qui viennent prier pour eux-mêmes ou pour des personnes qu'ils portent dans leur cœur et qui sont malades. Ces prières commencent par un temps où on s'accueille mutuellement dans l'Église pour montrer que nous faisons un corps, nous sommes une assemblée, nous sommes frères et sœurs. Et c'est important dans cette prière de vivre entre nous une communion. Ensuite, nous avons un temps de louange, nous bénissons le Seigneur pour ouvrir les cœurs. Ceux qui viennent sont parfois portent des choses lourdes, sortent d'une journée de travail. On a besoin d'ouvrir notre cœur au Seigneur pour pouvoir le laisser agir. Ce sont des chants simples qu'on retrouve dans toutes les paroisses. Ensuite, il y a un temps où je parle de la parole de Dieu, j'enseigne. Comme Jésus, il y a 2000 ans, enseignait et guérissait, nous faisons la même chose. Je pars de la parole, j'explique l'œuvre du Seigneur, une petite catéchèse, voire une évangélisation, parce que certaines personnes viennent parfois dans une église pour la première fois quand elles viennent à cette prière. Et puis ensuite, il y a un temps où je donne des témoignages. Soit les gens viennent témoigner eux-mêmes, soit je lis des lettres ou des emails que j'ai reçus, ou le fruit de conversations téléphoniques. Tous les jeudis, nous donnons des témoignages nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de guérisons qui s'opèrent durant cette prière qui rassemble plus de 1500 personnes. Ensuite, nous exposons le Saint-Sacrement, Jésus-Christ réellement présent dans sa Sainte Eucharistie, et nous lui demandons de faire ce qu'il faisait il y a 2000 ans. Le Christ est le même hier et aujourd'hui. Et ensuite, il passe dans la foule, porté par un diacre ou un prêtre. Et pendant ce temps-là, nous annonçons à travers des charismes, des dons de l'Esprit-Saint, les guérisons que le Seigneur est en train de faire dans la foule. Toutes les guérisons ne sont pas annoncées, certaines s'opèrent sans qu'il y ait de parole de connaissance. Et il y a, dans un certain nombre de cas, il y a concomitance entre la parole, le Saint-Sacrement qui passe devant une personne et la guérison que cette personne vit. Elle ressent parfois une chaleur ou quelque chose et le membre paralysé se met à bouger ou elle ne sent plus de douleur ou je ne sais pas quoi. Et puis au terme de cette prière, il y a aussi des guérisons pour des personnes pour qui on priait et qui peuvent être guéries au moment même où on prie, là où elles se trouvent, dans un hôpital ou ailleurs. Et au terme de cette prière, eh bien, nous remercions le Seigneur. Et nous demandons aux gens qui ont vécu des grâces, pas forcément ce soir-là, mais dans les temps précédents, semaines, mois, années précédentes, de nous faire remonter des témoignages pour pouvoir continuer d'alimenter les témoignages que nous donnerons les fois suivantes.
Alors c'est vrai qu'il y a de nombreux témoignages pour accréditer, on va dire, la véracité justement de ces guérisons. Là, on peut se demander, on peut se poser une question, mon père, si ces soirées de prière pour les guérisons, effectivement, permettent aussi d'adoucir finalement les maux et la vie d'une manière générale des chrétiens et même par-delà les chrétiens. Parce que on va le voir, il y a parfois des gens d'autres confessions qui peuvent guérir. Jésus agit en eux. Pourquoi l'Église ne popularise pas davantage ce genre de soirée de prière?
Alors donc, il y a plusieurs raisons à cela. Je pense qu'une des premières raisons, c'est que dans les années 70, tout ce qui était de l'ordre surnaturel a été beaucoup plus caché. On voulait surtout vivre les choses d'une manière naturelle, si j'ose dire, comme le disait Kant, la religion dans les limites de la simple raison. Donc il faut retrouver l'accueil de l'œuvre de Dieu que l'on ne maîtrise pas. Et pour nous, c'est difficile d'accepter que Dieu agisse sans qu'on maîtrise. Dans l'Église, ce n'est pas nous qui conduisons l'Église, c'est Dieu. C'est un chemin de foi. Il faut approfondir sa foi pour pouvoir vivre ce type de chemin. Une autre raison, c'est que pour vivre ces prières, il faut avoir un certain discernement. Il faut que ça se fasse dans un certain ordre. Il faut une certaine prudence. Donc, il faut aussi une certaine expérience qu'on acquiert progressivement. Il faut recevoir, si on exerce les charismes, il faut recevoir ce don. On ne peut pas se l'attribuer à soi-même. C'est Dieu qui décide quand il le donne. Et puis, ce type de prière commence quand même à se répandre un petit peu. Par exemple, le père Alarati, à Melun, dans l'église de l'Immaculée Conception, qui a été lui-même guéri d'une paralysie, commence une fois par mois des soirées de prière le dimanche soir aussi. Donc il y a d'autres lieux où ça se fait aussi, il n'y a pas qu'à Saint-Nicolas.
Alors il y a le phénomène, on va dire, si on peut parler ainsi des miracles, c'est vrai que fascine un petit peu les gens d'une manière générale. C'est pas d'ailleurs que les chrétiens. On s'interroge, nous, sur par le biais de nos réseaux sociaux, on a interrogé les auditeurs de Radio Notre-Dame, justement, sur les miracles. Croient-ils aux miracles? Eh bien, c'est oui à plus de 90%. Donc il y a vraiment une croyance, que je dirais, massive en les miracles. On croit au surnaturel, quand même. C'est le premier constat qu'on peut faire, mon père.
C'est une bonne nouvelle. Oui, je pense que les miracles sont le fruit de la foi populaire. Parfois, en intellectualisant plus les choses, on a vu parfois certains exégètes, voyez, dans les récits de guérison de l'Évangile, des récits mythiques. Voilà, c'était symbolique. En fait, non, Jésus a réellement guéri et il continue de guérir. Et la foi dans les miracles, ça vient paradoxalement souvent de cette foi populaire profonde qui vient du cœur et qui demande à Dieu des œuvres, non pas pour faire des choses qui vont en mettre plein la vue à tout le monde, mais surtout parce que ce sont des gens qui souffrent, qui ont besoin de faire l'expérience de la compassion de Dieu, de son amour dans leur vie.
Alors on va écouter le témoignage d'un docteur que j'annonçais en début d'émission, le médecin Patrick, qui lui a notamment été médecin à Lourdes, chargé d'identifier les miracles.
Alors, docteur Patrick Théier, vous êtes auteur d'un livre qui est paru aux éditions Arthège en 2015, « Expérience de mort imminente », mais vous avez été aussi pendant longtemps, quelques années, médecin à Lourdes chargé d'identifier les miracles. J'aimerais peut-être revenir sur cette expérience qui devait être forte, on l'imagine. Médecin, donc, chargé d'identifier les miracles. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les circonstances de cette charge qui vous a été proposée, si l'on peut dire ?
Eh bien, c'était en 1998 quand Monseigneur Perrier a choisi de trouver un nouveau médecin permanent au sanctuaire de Lourdes. Vous savez qu'il y a un bureau donc des constatations médicales qui existe depuis 1883 avec un médecin permanent à sa tête. Donc je me suis présenté avec d'autres et puis j'ai été choisi comme le 12e médecin de Lourdes avec donc pour objectif et pour travail d'abord de recevoir les déclarations volontaires et spontanées des personnes qui estiment avoir bénéficié d'une grâce de guérison par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, puis à partir de là, de les authentifier, c'est-à-dire premièrement d'assurer que ces guérisons alléguées sont vraiment réelles, qu'il y a bien eu passage d'un état pathologique à un état de santé, et puis deuxièmement, de réfléchir avec les médecins qui passent là, de savoir si cette guérison n'est pas simplement naturelle, mais bien surnaturelle, et donc qu'elle ne trouve aucune explication médicale dans l'état actuel de la science.
Alors, docteur, quand justement certains croyants, certains fidèles, estiment avoir été guéris miraculeusement, ils se tournent vers vous. Est-ce que finalement les médecins qui diagnostiquent si la guérison a été surnaturelle ou pas, si c'est un miracle, sont catholiques ou pour pouvoir y croire, si je peux
Alors,
dire.
Alors, il y a plusieurs questions. La première, c'est que les pèlerins qui veulent se déclarer le font volontairement et spontanément, on ne va pas les chercher. Oui. Il y en a certainement une bonne moitié qui ne se déclare pas, première chose. Ça fait quand même, moi j'ai eu, le temps que j'étais là, à peu près une déclaration par semaine.
D'accord.
C'est quand même déjà pas mal. Deuxièmement, notre rôle n'est pas de parler de miracle, mais de dire que cette guérison est inexpliquée.
Oui.
Donc en accumulant les documents qui sont quand même maintenant aujourd'hui très nombreux, surtout dans les cas de maladies graves, puisqu'on ne s'intéresse qu'aux maladies graves en vue donc d'une éventuelle reconnaissance de miracle, les documents avant et après la guérison, donc ça prend du temps pour récolter tout cela.
Donc il faut vérifier, bien sûr, au préalable, s'il y a bien eu une maladie, peut-être même incurable, etc.
Exactement, et que cette maladie est vraiment guérie avec un recul suffisant.
Oui.
Et donc ça, c'est le travail du corps médical. Et c'est à partir de là, quand on aura abouti à une conclusion de conviction intérieure. Hein. On peut jamais le prouver à 100%. C'est une raison. On peut juste dire que cette guérison n'a pas d'explication, aucune explication pour nous.
Oui.
Ce sera à l'Église de décider si, oui ou non, elle veut le reconnaître comme un miracle.
Alors vous-même, vous, docteur, pendant les plusieurs années que vous avez passées à Lourdes, justement, à regarder, à vérifier l'authenticité de ces miracles, ou du moins d'émettre un avis, vous avez vu de vos propres yeux des guérisons précisément qui vous semblaient complètement miraculeuses sur le coup. Je pèse le mot.
Oui, dès mon arrivée, j'ai repris un dossier qui me semblait quand même assez étonnant, celui de Jean-Pierre Belli qui... va être reconnu l'année suivante comme le 66e miraculé de Lourdes, qui était venu à Lourdes en 1987 ou 89, malade, donc atteint d'une sclérose en plaques grave depuis 16 ans, reconnu invalide à 100% par la Sécurité sociale à titre définitif et qui a guéri subitement.
Et totalement.
Oui. 3 jours après, il faisait de la bicyclette alors qu'il ne marchait plus, il était en chaise roulante, etc. Mm. Et donc, moi, je l'ai vu et revu. Il a été revu par de nombreux médecins jusqu'au jour où le Comité médical international de Lourdes, donc, qui est un comité, le dernier comité, si vous voulez, composé de spécialistes de l'Europe entière, il y a une vingtaine, dont je fais partie maintenant, je suis à la retraite d'ailleurs, a décidé que cette guérison vraiment n'avait aucune explication médicale. Mmh. Et donc l'évêque d'Angoulême à cette époque-là, Monseigneur d'Agence, puisque ça dépend de l'évêque du diocèse du Guéry, a décidé que on pouvait le reconnaître comme un miracle, et il a donc été le 66e miracle de Lourdes. Mmh.
Est-ce que le corps des médecins duquel vous faites partie, comment voit-il justement ces miracles? Est-ce qu'ils y croient tout de même? Ils se laissent un petit peu porter?
Ça les surprend toujours. Bon, oui. Il existe aujourd'hui, c'est vrai, ce qu'on appelle des rémissions spontanées. C'est-à-dire des personnes qui ont des... On le sait grâce aux moyens de communication, je dirais. Mm-hmm. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Donc des gens qui sont atteints d'une maladie grave, un cancer par exemple, qui guérissent spontanément... Donc ça surprend toujours. Mais la grosse différence, et ça j'ai beaucoup insisté le temps que j'étais à Lourdes sur ce sujet, c'est que la grosse différence c'est que dans les rémissions spontanées, la personne ne sait pas qu'elle guérit finalement. Elle est malade et puis elle va mieux. Bon, elle va mieux, tant mieux, on ne sait pas pour combien de temps. C'est en effet une surprise pour tout le monde. Alors que dans la guérison miraculeuse, la personne sait très bien, de façon très consciente, le moment où elle a guéri.
Oui.
C'est très précis pour elle, et elle y voit une intervention divine, vraiment. Elle sait que cette guérison n'est pas naturelle, qu'elle sort de l'ordinaire, et c'est elle qui vient l'annoncer en nous disant « Là, j'ai vécu quelque chose qui n'est pas qui est de l'ordre du surnaturel. » Et c'est elle qui le sait, c'est elle qui le dit.
Il y a une conviction profonde.
Avec souvent cette conscience d'avoir été choisie par Dieu, disons, d'être vraiment... c'est très fort. Hein. À chaque fois, j'ai été très impressionné.
Alors, docteur, peut-être une question un peu naïve, mais qui sont-ils, justement, ces miraculés? C'est tout un chacun? C'est vous et moi? Ce sont des personnes très pieuses qui croient profondément?
Pas forcément. Ouais. Non, pas forcément. C'est ça qui est étonnant. C'est la question suprême, parce qu'on ne peut jamais dire pourquoi c'est tel ou tel autre qui guérit miraculeusement. Moi, je pense que c'est plus le lieu qui fait, hein, la prière de tous ces pèlerins rassemblés à Lourdes à la demande de la Vierge Marie, qui fait que certains, pourquoi, j'en sais rien, guérissent. Mais c'est pas forcément les plus pieux, et j'ai même eu trois musulmanes qui ont guéri à Lourdes.
D'accord, et qui se sont convertis par la suite ou pas forcément?
Oui.
Oui, d'accord.
Oui, oui.
Alors peut-être une dernière question, docteur Patrick Théier. Justement, sur ces miracles, on imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Lourdes, et on le sait, beaucoup de pèlerins qui cherchent aussi, qui attendent peut-être un miracle pour eux ou pour un proche, pour un malade. Oui. Comment, là aussi, après, ne pas forcément sombrer justement dans la superstition, dans le merveilleux? Parce que c'est aussi l'écueil dans lequel on peut tomber.
Justement, l'Église a toujours été attentive à ce qu'on ne sombre pas dans le merveilleux, dans l'illuminisme, et c'est bien pourquoi, devant une guérison alléguée, quelle qu'elle soit, elle prend le soin de demander l'avis des médecins, donc de la raison et de la science, avant de crier au miracle. Hein. Oui. Et donc, je pense en effet que grâce à ce bureau des consultations médicales, il n'y a pas ce risque. Ça me semble fondamental.
Oui. Donc, fort de votre expérience, docteur, vous êtes convaincu que le miracle existe, finalement, que les miracles sont véritablement là.
Oui, vraiment. Tout à fait. L'expérience moi, c'est mon expérience qui me prouve que ça existe. Maintenant, encore une fois, le miracle, c'est un signe qui nous est donné. Un signe, on ne peut pas le prouver. Je dirais, si on pouvait prouver un miracle, ce serait plus un miracle. Un signe, c'est Blaise Pascal qui disait dans le miracle, il y a suffisamment de clarté pour ceux qui veulent bien croire et suffisamment d'obscurité pour ceux qui ne veulent pas. Ouais. Je crois que c'est un peu ça.
Et puis, on imagine aussi que ça a permis aussi à votre foi peut-être de se raffermir, aussi ça renforce forcément la foi quand on voit des miracles quasiment toutes les semaines.
Oui, je crois que oui, moi, oui, c'est sûr. Mais au-delà de moi-même, je dirais, je crois que c'est là aussi pour renforcer la foi des pèlerins, bon, qui ne vont pas tous guérir, j'en suis bien d'accord, mais c'est bien pourquoi j'avais écrit un livre sur le sujet, Lourdes des miracles pour notre guérison, parce que je pense que ces guérisons visibles, constatables et analysables que sont les miracles, sont là pour nous interpeller, nous faire prendre conscience que la guérison, nous en avons tous besoin et qu'elle est pour tous. Alors peut-être pas la guérison du corps, mais en tout cas la guérison de l'âme.
Merci beaucoup docteur pour votre beau témoignage.
C'était donc le docteur Patrick Théier. Père Thierry Aval, quand le docteur Théier dit que justement les miracles finalement sont là pour nous tous, pour raffermir, si l'on peut dire, notre foi, c'est ça aussi pourquoi la raison des miracles, si l'on peut dire.
Les miracles sont, dans l'évangile de Jean en particulier, des signes qui visent quelque chose d'autre qu'eux-mêmes, c'est-à-dire l'action de Dieu. La présence de Dieu, son action rédemptrice qui annonce la résurrection des corps, qui sont des signes du royaume. Donc les miracles, à la fois, bien évidemment, c'est une personne qui est guérie, à qui Dieu montre son amour, mais c'est aussi bien plus, c'est un témoignage pour tout le peuple, pour tous ceux qui veulent bien l'entendre, de l'amour de Dieu, de sa présence, de son action dans l'humanité.
Alors comment, c'est la question aussi que je posais au docteur Patrick Théier, comment Dieu, finalement, choisit-il les miraculés? On peut se dire qu'une pauvre personne qui vient à Lourdes, précisément pour demander une guérison qu'elle n'obtiendra pas forcément, et sera peut-être déçue, je ne sais pas, et une autre personne qui le demandera, peut-être avec moins de ferveur, l'obtiendra. Enfin, c'est un peu la roulette russe, cette histoire de miracle aussi.
Alors, Jésus a dit lui-même qu'il pouvait être occasion de scandale, c'est-à-dire que des personnes ne peuvent ne pas comprendre l'action du Christ, et durant sa vie, bien... S'il a été crucifié, c'est que certains l'ont considéré comme objet de scandale. Les miracles, c'est quand on va prier Dieu, on ne peut pas lui imposer de faire un miracle. Prier, c'est s'en remettre à la volonté de Dieu, c'est le laisser agir. Moi, je constate qu'au niveau des gens guéris à Saint-Nicolas, il y a des gens qui sont guéris parce qu'ils ont une grande foi. Je vois des gens qui... Bon, par exemple, le jeudi dernier, il y a eu le témoignage d'une personne qui avait vraiment une très grande foi, qui prie beaucoup et qui a été guéri, qui a eu une grande grâce de guérison. Et puis il y a des gens qui guérissent alors qu'ils n'ont pas beaucoup la foi ou qu'ils ne l'ont pas du tout pour avoir la foi. C'est une manière pour Dieu de leur montrer sa présence. Alors le docteur Patrick Kelly a parlé le cas de trois musulmans. Il y a des musulmans, il y a d'autres religions, il y a des gens athées, agnostiques. Il y a des gens qui guérissent pour découvrir dans leur vie l'action de Dieu. Et même des chrétiens pratiquants ne sont pas forcément habitués à cette présence immédiate de l'action de Dieu. Et je sais qu'il y a, j'ai par exemple des cas de chrétiens pratiquants qui ont été guéris. Ils avaient beau aller à la messe tous les dimanches, pour eux, c'était un étonnement total, cette guérison. Et surtout, ils ont eu du mal à accepter que Dieu était tellement présent. Ils avaient une conception de Dieu assez théorique. Ouais. Et le miracle nous permet de toucher vraiment l'action de Dieu, sa présence immédiate. Et notre foi, parfois, elle est un peu trop abstraite.
Donc là, c'est clair qu'on est dans le concret, dans le visible. Mais aussi, Jésus nous demande finalement aussi de croire sans avoir vu, sans voir. C'est aussi cela la foi.
Voilà, c'est pour ça que d'une manière, d'abord comme l'a dit le docteur Patrick Théier, les miracles ne sont pas des preuves, ce sont des signes.
Oui.
Parce que le médecin peut constater le caractère inexplicable d'une guérison, mais il ne peut pas en tant que médecin dire que c'est un miracle, puisque ça suppose la foi qui reconnaît l'action de Dieu. Il y a toujours des gens qui vont inventer d'autres raisons, qui vont dire qu'il y a d'autres forces qui sont à l'œuvre, ou qui diront que l'homme peut guérir naturellement de n'importe quoi instantanément, comme j'ai déjà entendu dire par un médecin. ce qui est un petit peu irrationnel à mon sens. Mais on peut toujours trouver une autre raison de ne pas croire. Autrement dit, les miracles ne sont pas là pour nous forcer à croire. Ce sont des signes, ce sont des portes, des chemins qui nous aident à avancer. Mais Dieu ne force jamais personne à croire. Ce serait vraiment contraire à sa manière de faire.
À Saint-Nicolas-des-Champs, justement, vous avez vu de nombreuses et constaté de nombreuses guérisons.
Oui.
On peut guérir de tout par miracle, c'est-à-dire à la fois des maladies peut-être d'ordre mental, je ne sais pas, aussi des maladies incurables, graves, des cancers, on en a parlé.
Oui, oui. Alors à Saint-Nicolas, je ne dis jamais qu'une guérison est un miracle parce que je ne veux pas me prévaloir de l'autorité de l'Église pour le dire. Mais au niveau des guérisons, je pense par exemple à le cas d'une femme à qui on avait diagnostiqué d'un coup un cancer du sang, l'hépatite B et virus VIH. Mm-hmm. Elle s'était sentie fatiguée, on a fait des analyses et on a découvert tout ça d'un coup. Ça a été énorme. Elle a supplié le Seigneur, elle a vraiment crié vers Dieu de son lit d'hôpital. Son frère est venu prier pour elle à Saint-Nicolas. On a annoncé qu'un frère est venu prier pour sa sœur qui est à l'hôpital et qu'elle allait être guérie. Et le lendemain, quand son frère va la voir, sa sœur lui annonce que le médecin, complètement étonné, découvre qu'il n'y a plus rien du tout, même plus de virus. C'est absolument incroyable. Tout a été... elle n'a plus aucune pathologie. Voilà. Au niveau des guérisons psychologiques, les guérisons psychologiques, ça se passe souvent dans le temps, mais il y a quand même quelques cas de guérisons psychologiques instantanées. Par exemple, une personne qui était forte de dépression depuis longtemps, depuis au moins une dizaine d'années. Et après la prière des malades, le soir, il y avait une parole de guérison pour une personne qui était en dépression. Elle était dans son lit, elle a ressenti comme un glaçon qui est passé dans tout son corps. Et c'est une manière pour Dieu de lui signifier qu'elle était en train d'être guérie par lui, en plus de la parole. Il fallait qu'elle expérimente pour elle-même. Et à partir de ce moment-là, elle n'avait plus du tout de dépression. Et ce n'est pas quelque chose qui a été, dont elle a témoigné une semaine après. On a vraiment eu le temps de vérifier que la dépression ne revenait pas. Ou alors une personne qui est venue prier pour une autre qui avait des pulsions suicidaires depuis 20 ans. Elle priait pour elle depuis très longtemps. Une parole de guérison et les pulsions suicidaires ont complètement cessé pour cette personne qui n'était pas présente.
Donc c'est quand même assez extraordinaire quand on y pense. Comme vous qui constatez ça et qui voyez ça presque toutes les semaines, j'imagine que vous baignez vraiment dans une foi chevillée au corps. C'est une évidence...
Pour moi, c'est l'objet d'étonnement, d'exultation, de remercier le Seigneur. Parfois, je pleure pour remercier Dieu de faire ce qu'il fait. Maintenant, la foi, si vous voulez, elle suppose aussi l'œuvre de notre liberté. Elle mûrit progressivement. Les miracles nous soutiennent dans la foi, mais ils ne se substituent pas à nous. Et quand on a la grâce de vivre ce genre de choses, le Seigneur permet aussi que notre foi soit éprouvée. Et on fait aussi l'expérience de sa faiblesse, un peu comme les apôtres, qui ont beau avoir vu plein de miracles, tout encore quand il n'y a plus de pain ou fuit au moment de la mort du Christ. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas si simples. On a tous à combattre pour avoir la foi et les miracles nous aident, mais il y a quand même ce combat de la foi qu'on doit tous vivre.
Alors, mon père, est-ce que vous conseilleriez d'ailleurs à nos auditeurs, par exemple, qui souhaiteraient guérir ou faire guérir un proche par l'action, justement, du Saint-Esprit, de demander tout simplement à Dieu un miracle, de demander un miracle ?
Oui, on a toujours le droit de demander à Dieu un miracle, une guérison. Je me rappelle une personne qui avait témoigné, c'était pendant l'été, elle ne pouvait pas venir à Saint-Nicolas-des-Champs parce qu'il n'y a pas de prière des malades pendant l'été. Elle est allée devant le tabernacle, elle a dit à Jésus, « Tu es le même qu'à Saint-Nicolas-des-Champs pendant la prière des malades, donc tu peux me guérir. » Et le Seigneur a été touché par cette prière et elle a été guérie instantanément. Donc là où le Seigneur trouve la foi, eh bien, c'est une porte ouverte à la guérison. Maintenant, il faut aussi laisser la liberté de Dieu à Dieu de guérir ou de ne pas guérir. Mais n'importe où, des gens peuvent obtenir à travers la foi, et surtout quand plusieurs se regroupent pour prier, parce que le Seigneur aime beaucoup la communion, eh bien, il peut y avoir des guérisons, des miracles, indépendamment même de la prière de Saint-Nicolas, de Lourdes ou d'autres lieux où le Seigneur guérit de manière plus habituelle.
Alors finalement, à vous entendre, c'est vrai que dans notre monde très, très rationnel, où on a l'impression que les miracles ont un peu disparu finalement de notre civilisation, de notre temps, en fait, les miracles sont partout.
Alors d'abord, le monde n'est pas si rationnel que ça. Quand on voit les comportements des individus, ouais, c'est pas si rationnel que ça. Oui, les miracles sont partout parce que Dieu est présent et que notre monde actuellement vit un drame. Il y a de lourds combats. Et Dieu a besoin doit manifester sa présence pour soutenir l'Église, pour soutenir les croyants, pour les aider à continuer d'avancer, à ne pas se décourager, parce qu'il y a 10 000 raisons d'être découragé dans le monde d'aujourd'hui. Et le Christ continue son œuvre rédemptrice. Il manifeste qu'il est ressuscité parmi nous, au milieu de nous. Si le Seigneur ne se manifeste pas concrètement dans nos vies, eh bien, progressivement, Dieu va devenir une abstraction. Bon, on croira en Dieu, mais pour nous, ça sera complètement abstrait, lointain. Donc, il est important de croire dans l'action de Dieu, d'y être réceptif. Et en même temps, il ne faut pas absolument se focaliser absolument sur le fait d'avoir absolument des miracles pour croire, parce que sinon, on retombe dans l'écueil de ceux qui demandaient à Jésus sans cesse des miracles.
Et ça ne peut être que dans la demande, finalement, à Dieu de nous exaucer systématiquement comme un magicien, finalement.
Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une attitude magique. Il faut surtout s'en remettre à la volonté du Père, vivre la confiance, l'abandon. C'est ça ce que Dieu nous demande en premier.
Bien, merci beaucoup, Père Thierry Aval, pour votre beau témoignage. Je rappelle que vous êtes vicaire à Saint-Nicolas-des-Champs et que vous animez effectivement des soirées de prière pour les malades tous les jeudis à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci également au docteur Patrick Théier, qui était donc médecin à Lourdes, chargé d'authentifier les miracles. Merci à vous.
Merci beaucoup.